France Culture.
L'IA, une solution ou un problème pour la planète? Aujourd'hui, en France, on estime que près de 70% des 18-24 ans utilisent l'intelligence artificielle au quotidien. Et en seulement un an, le nombre d'usagers a augmenté de 60%. L'IA s'impose donc de plus en plus à nous. Et il est primordial d'en connaître les effets, les apports et les conséquences, notamment en matière de devenir de la planète Terre, de son climat et de son vivant. De son empreinte carbone à son utilité au service de l'intérêt général, l'intelligence artificielle peut-elle s'accorder avec les enjeux du réchauffement climatique? Comment peut-elle surmonter son impact environnemental actuel? Une IA frugale est-elle envisageable? Quels sont les conflits d'usage que peuvent générer l'implantation de nouveaux centres de données en France? Voici quelques-unes des questions qui seront soulevées avec nos trois invités. Dejan Glavas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut IA pour le développement durable. Vous êtes professeur associé en finance à l'ESCA. Alors l'ESCA, c'est l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers, c'est ça?
Tout à fait.
Vous êtes expert en finance climat ainsi qu'en responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Avec nous également Juliette Fropier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de projet IA Ecolab pour le Commissariat général au développement durable, c'est ça? Et les ministères territoire, écologie, logement. Et avec vous et avec nous, Marianne Tordeux-Bidker, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-rapporteur d'un avis récent du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Ce rapport, cet avis donc s'intitule « Pour une IA au service de l'intérêt général ». Vous êtes directrice des affaires publiques de France Digital et conseillère au Conseil économique, social et environnemental. Bienvenue à vous trois et puis bienvenue bien sûr à nos auditeurs, nos auditrices dans le magazine de l'environnement de France Culture en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Corinne Amar, avec la collaboration de Lily Cornaer, celle de Vanessa Chang, Timothée Fernandez-Lopez et Christine Anzano de la documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique François Saint-Jour.
La signature d'une nouvelle stratégie française. Un gros contrat entre 30 et 50 milliards d'euros financé par les Émirats Arabes Unis pour un méga projet de data center dans l'Hexagone. L'objectif de la France, s'imposer comme une troisième voie entre les États-Unis et la Chine, selon cet expert.
Aux États-Unis, tout peut bouger d'un jour à l'autre avec Trump qui peut vous inventer un nouveau truc du jour au lendemain. Et en Chine, en plus, vous ne savez pas trop si vous installez un data center en Chine, où vont finir vos données.
Depuis quelques années, les data centers prolifèrent dans le pays. On en compte environ 300 aujourd'hui. La France compte accélérer avec bientôt 35 nouveaux sites.
Ces serveurs permettent d'héberger les données de plein d'usages, mais par exemple celui-ci héberge les boîtes mail d'une centaine d'entreprises en France. La France a une énergie qui est très stable, qui est assez décarbonée, donc avec le renouvelable et le nucléaire. On a une énergie qui est très décarbonée, qui est du coup très idéale pour faire tourner des serveurs qui vont consommer beaucoup d'électricité.
Car les data centers, c'est aussi offrir une puissance de calcul aux intelligences artificielles qui augmentent encore la demande en énergie et les besoins en eau pour les refroidir. Une consommation très forte des ressources, pointée du doigt par les défenseurs de l'environnement.
Reportage diffusé sur France 2 le 7 février dernier. Plus de 300 data centers, autrement appelés centres de données, on peut dire, existent en France, qui place le pays au sixième rang mondial des pays après les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine et le Canada. Et l'Île-de-France en compte 95, suivi de Marseille qui en a 12. Et donc cette annonce de plus de data centers en France, et on entendait un montant annoncé dans le reportage, je crois qu'aujourd'hui on en est à 109 milliards d'euros à horizon 2031. Face à la concurrence chinoise et américaine notamment, est-ce qu'on a le choix d'ailleurs entre IA et pas IA aujourd'hui? Dejan Glavas.
Alors, on peut peut-être commencer par une définition et puis après, effectivement,
oui,
se poser la question d'IA ou pas IA. Alors, C'est une définition non officielle. Hein. Les systèmes, ce sont donc l'IA, l'intelligence artificielle, ce sont des systèmes qui permettent à une machine de reproduire certains traits des capacités humaines. Alors, on entend par là notamment l'apprentissage, la vision et bien d'autres capacités humaines. Alors, pour la petite anecdote, un des pionniers de l'IA, qui s'appelle John McCarthy, qui a donc créé le terme en 1956, donc lors de la conférence de Dartmouth, a expliqué dans une interview dans les années 70 qu'il a inventé cette expression pour obtenir des fonds.
Ah, ça a donc, marché.
Dès le départ, très bien.
Et ça marche toujours, on le voit bien.
Oui, on n'a pas trouvé mieux depuis, en tout cas, en termes d'expression pour qualifier tous ces systèmes-là. Mais dès le départ, en fait, on se rend compte que, alors c'est une expression qui est un peu utilisée comme un élément de marketing, et également, ce qu'on observe beaucoup, c'est que les spécialistes de l'IA, en général, essayent d'éviter le terme. Voilà. Donc c'est.
Et pourquoi?
La raison, c'est que justement, ce qui vient d'être dit sur McCarthy, c'est que l'intelligence artificielle en tant qu'expression est pas assez précis pour qualifier les modèles dont on parle de manière plus spécifique.
D'accord.
C'est un terme vraiment très générique qui va couvrir beaucoup de choses. Il est très compliqué aussi de faire une taxonomie, donc de dire, voilà, qu'est-ce qui rentre dans le giron de l'IA, ce qui ne l'est pas. Et donc, en fait, les chercheurs, par exemple, et les experts vont éviter ce terme-là parce que ça manque un peu de précision dans la qualification de ce qu'est ou pas un système
d'IA.
D'accord,
mais ça parle à tout le monde. Juliette Fropier.
Oui, sur la définition de l'IA, je voudrais dire que souvent, ce que j'essaye de dire, c'est de l'opposer finalement à l'informatique traditionnelle. Quand on parle d'IA, on parle d'un apprentissage à partir de beaucoup de données. Et je donne l'exemple, par exemple, de PlantNet, donc qui est un système d'IA qui permet de reconnaître des espèces d'arbres. Par exemple, quand vous vous baladez dans la nature avec un smartphone, vous êtes capable, avec votre téléphone aujourd'hui, de prendre en photo un arbre, une plante, n'importe quoi autour de vous. Et ça va vous donner son espèce, ça va vous identifier du coup son espèce. Et en fait, comment ce système d'IA, il fait pour identifier cette espèce d'arbre ou de plante? C'est à partir d'un très 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 grand nombre d'images qui lui a permis d'apprendre, donc à reconnaître telle ou telle espèce. Mais en fait, finalement, par rapport à l'informatique traditionnelle, le programmeur n'a pas dit c'est tel critère qu'il faut que tu regardes pour comprendre du coup quelle est l'espèce. Au contraire, c'est à partir des données que du coup l'ordinateur a inféré lui-même comment reconnaître de nouvelles espèces de plantes. Et je fais ce lien du coup entre l'IA qui permet d'identifier des plantes et l'IA générative, puisque finalement c'est à peu près la même chose. L'IA générative qu'on utilise aujourd'hui, par exemple ChatGPT ou Mistral le chat, ça a appris à partir d'énormément de données qui sont en ligne, et c'est à partir de cet apprentissage très massif que ça nous permet donc de répondre à des questions en utilisant ces données. Et après, sur la question que vous posiez initialement sur IA ou pas, est-ce qu'on a le choix ? Je dirais qu'on a surtout le choix des conditions dans lesquelles on veut mettre en place ces IA. L'IA, ça fait très longtemps que ça existe. On parlait beaucoup de systèmes de machine learning avant pour optimiser, pour prédire. Donc par exemple, les systèmes pour reconnaître des espèces de plantes, ça fait très longtemps que ça existe. Aujourd'hui, on en parle presque que pour parler d'IA générative, alors que l'IA, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est beaucoup de cas d'usage pour la transition écologique notamment. Donc, on a le choix de son application, effectivement.
Oui. Encadrement, normes, on va en parler aussi, bien sûr. Marianne Thordebitker.
En tout cas, l'intelligence artificielle, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'elle n'est pas intelligente. C'est vraiment une suite de calculs probabilistes et mathématiques, fondés sur des algorithmes, de la puissance de calcul et des jeux de données, ce que vous expliquiez juste avant. Et donc, de ce fait, comprenant quelle est la technique, on va pouvoir, derrière, essayer de voir où est-ce qu'il peut y avoir un impact environnemental autour de cette technologie.
Il faut rappeler que l'IA est dépourvue de conscience, d'aptitude émotionnelle, de sens commun. Là aussi, il est toujours important de le préciser. En tout cas, elle n'est pas neutre. Et c'est d'abord, comme vous le dites aussi dans le rapport à Marianne Thordebitker, le résultat de choix politiques.
Nous, en France, on a une avance extraordinaire. C'est qu'on produit l'électricité parmi les plus décarbonées au monde, les plus pilotables et les plus sûrs. On a un réseau le plus sûr et le plus stable et on est exportateur de cette électricité décarbonée. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, nos prédécesseurs ont voulu le nucléaire qu'on l'a développée et que j'ai confirmé cette stratégie, qu'on est en train de recréer des réacteurs nucléaires et qu'on a ensuite développé du renouvelable. Ce qui fait que l'année dernière, on a exporté 90 TWh, nous Français, exportés. Il n'y a aucun autre pays européen qui produit autant d'énergie décarbonée en surplus de sa consommation. Donc nous, quand on fait des data centers en France, c'est pas pareil aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, ces data centers, ils tournent beaucoup avec du pétrole et du gaz. Nous, cocorico, pardon, français, quand vous allez faire des data centers chez nous, bah c'est simple, c'est des data centers propres.
Extrait de l'interview du président Emmanuel Macron, c'était sur France 2 le 9 février 2025. Cela nous amène bien sûr à questionner l'empreinte carbone, les besoins énergétiques de l'IA. Si l'INA m'écoute, l'IA, remarquez à une lettre près, mais l'INA passera à l'IA forcément. Peut-être pour nous effectivement commencer par là, hein, puisqu'il y a quand même ces questions très précises et sur le plan environnemental. L'IA repose sur d'énormes volume de données traitées et stockées dans des centres de données qui fonctionnent avec de gros besoins énergétiques. Dejan Glavas.
Alors oui, tout à fait. Alors on peut distinguer cinq grandes familles d'impact en termes d'environnement de l'IA. Vous avez tout d'abord, vous l'avez cité, la question de la consommation d'électricité des centres de données, qui est souvent cité comme le principal impact environnemental. Vous avez par la suite la consommation des ressources, des matières premières pour produire les centres de données. Vous avez la question du prélèvement de l'eau, qui, comme vous l'avez cité tout à l'heure, permet notamment de refroidir en fait les centres de données. Puis le traitement des déchets, parce qu'une fois que les centres de données arrivent en fin de vie, il faut bien traiter les déchets électroniques. Et puis un élément qui est, à mon sens, l'élément le plus important, qui est l'impact indirect, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire avec l'IA que vous avez générée et utilisée. Ça n'est pas la même chose d'utiliser de l'IA, comme ça a été dit tout à l'heure, pour préserver la biodiversité ou produire davantage de véhicules. Donc l'usage de l'IA est vraiment la question centrale en termes d'impact de l'IA. Pour en revenir sur la question de l'énergie et la consommation d'électricité...
Et est-ce qu'il est facile de mesurer précisément la consommation d'énergie liée à l'IA aussi ?
Alors, c'est là que effectivement il y a une grande difficulté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les centres de données sont donc c'est l'infrastructure dans laquelle sont en fait générés, donc créés les IA, entraînés, et également les infrastructures dans lesquelles on les déploie, on les utilise, on appelle ça l'inférence. Et donc ces centres de données sont également utilisés à d'autres fins, pas uniquement pour générer, entraîner et déployer des IA. Mmh. Et donc il est très difficile de distinguer la consommation d'électricité qui est liée en fait à l'usage et à l'entraînement des IA et celle qui est liée à l'usage des centres de données par ailleurs. Mmh. Ce qu'on peut dire...
On peut donner des estimations, des chiffres quand même, pour avoir une idée un peu.
Alors, des estimations, ce qu'on sait, c'est que, alors de manière globale, les centres de données, donc il y a eu un rapport qui a été fait par l'Agence internationale de l'énergie, qui nous dit qu'en fait, les centres de données aujourd'hui consomment environ 460 TWh. Enfin aujourd'hui, en 2022, donc à la date du rapport, et qu'il est prévu pour, d'ici à 2030, un doublement de cette consommation d'électricité. Il est notamment prévu qu'en 2026, il y a déjà un premier milestone avec un passage à 1000 TWh.
Et ça, on parle à quelle échelle en fait ?
Là, c'est à l'échelle globale.
Globale, d'accord.
Ce qui est important aussi de retenir vis-à-vis de cette question-là, c'est que historiquement, les centres de données représentaient un niveau à peu près constant de la demande électrique mondiale. C'est-à-dire, ils représentaient à peu près 1% de la demande d'électricité. Oui. Depuis l'arrivée, notamment des IA génératives, cet équilibre a été cassé. C'est-à-dire que l'efficacité croissante des centres de données ne compense aujourd'hui plus le besoin en calcul lié aux intelligences artificielles génératives et à d'autres applications évidemment, mais notamment à l'IA.
Juliette Fropier.
Oui, je voudrais insister sur un point qui est au final celui du manque de transparence. En fait, on peut citer quelques chiffres et je vais en citer quelques-uns, mais au final, on a très très peu de données. Et l'Agence internationale de l'énergie, qui publie quelques chiffres au niveau mondial, le fait de manière estimative.
Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de chiffres clés ou d'estimations.
Exactement.
En tout cas, on en est là. Il faut être très précis.
Il faut évidemment le rappeler, puisqu'aujourd'hui, oui. Effectivement, on a beaucoup de l'IA du coup est entraînée et aussi utilisée du coup sur des grands centres de données, la plupart non situés en France, et les grands producteurs d'IA ne voient pas encore du coup l'intérêt de publier beaucoup de données environnementales sur leur modèle d'IA. Donc on en a assez peu.
Et ils n'en ont pas encore l'obligation en tout cas.
Ils n'en ont pas encore l'obligation, plus. Tout à fait. Mmh. On a quelques données que je peux vous partager quand même qui permettent un peu de se rendre compte de l'ampleur, de ce que ça veut dire en fait finalement. Donc c'est l'entreprise Meta, anciennement Facebook, qui a partagé notamment pendant la publication de son modèle Llama 3, donc avec un modèle avec 70 milliards de paramètres, que l'entraînement, donc seulement l'entraînement, pas l'utilisation du modèle, donc quand on l'utilise c'est les inférences, c'est quand par exemple nous on pose une question sur ChatGPT, l'entraînement aurait coûté 4,5 gigawatt-heure d'électricité. Et aurait généré 1900 tonnes de CO2. Donc 1900 tonnes de CO2 par rapport à nous, humains, qui émettons environ 10 tonnes de CO2 par an et par personne, on voit à peu près ce que ça représente. Mais ces quelques chiffres qui partagent du coup sur l'entraînement, on ne les a pas du tout sur l'inférence. Et ça aujourd'hui, comme on est des millions à utiliser des IA génératives chaque jour, c'est beaucoup plus grand. On a quelques estimations qui ont été faites par la chercheuse Sacha Lucioni sur le fait que, par exemple, générer une image de bonne qualité, ça peut coûter jusqu'à 11 watt-heure d'électricité. Et donc 11 watt-heure, c'est à peu près une demi-charge de téléphone. Quand on charge son téléphone en entier, c'est une demi-charge de téléphone. En moyenne, c'est 3 watt-heure pour générer une image.
Alors si ce n'est qu'on a compris qu'on était aussi au début de l'usage de l'IA et qu'il faudra aussi probablement voir ce que ça va devenir. Peut-être qu'il y a d'ores et déjà des projections, un peu une idée de l'évolution future. Il est important aussi de dire que la quantité de CO2 générée dépend fortement aussi de la source d'électricité utilisée pour alimenter les centres de données. Qui veut se lancer peut-être sur le terrain? Oui, Marianne Tordebitker.
Je voulais revenir sur les courbes et les tendances.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que aujourd'hui, la courbe aussi de l'ensemble des ressources, qu'elles soient eau, électricité, c'est une courbe exponentielle et avec un véritable effet aggravant, avec deux facteurs aggravants. Le premier, c'est l'effet d'entraînement. Cet effet d'entraînement, c'est le fait que des nouvelles capacités de calcul vont entraîner des nouveaux usages. Ces nouveaux usages vont nécessiter des nouvelles capacités de calcul. Et là, comme ça, on arrive dans un cycle où on voit bien l'exponentielle se dessiner. Le deuxième facteur aggravant, c'est l'effet rebond. C'est le fait que, en principe, toute nouvelle technologie est censée apporter un gain d'efficacité énergétique, mais en réalité, ce gain d'efficacité énergétique va être annulé par l'augmentation des usages et donc la production d'infrastructures numériques supplémentaires. On en revient aussi là à l'effet d'entraînement. Et je pense que dans l'actualité, on a vu l'annonce de DeepSeek qui annonce à la fois avoir développé un modèle moins cher, mais aussi censé être plus performant. On peut voir qu'il y a un débat sur la performance énergétique et l'amoindrissement de cette performance de ce coût carbone et environnemental. Mais la réalité, c'est qu'une semaine après que DeepSeek ait été annoncé, on a eu OpenAI qui a lui-même lancé juste derrière son modèle équivalent. Et donc c'est pour moi l'illustration parfaite de l'effet d'entraînement où, à la fin, on arrive effectivement sur une courbe de l'empreinte environnementale qui s'aggrave.
Alors, oui. Je tiens à dire exponentielle et la course en avant.
Exactement. Après, je pense que du coup, il va falloir trouver des solutions et sans être technosolutionniste, il peut y avoir des solutions et peut-être une lumière au bout du tunnel. C'est important.
Alors, bien sûr, dans l'émission, nous parlerons des leviers, des solutions, de ce qui se dessine, mais je voudrais qu'on poursuive quand même le tableau parce qu'il faut être complet sur justement les impacts tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et en sachant, c'est important de le dire, que l'effet rebond, l'effet d'entraînement, il faut aussi en tenir compte. Vous vouliez ajouter quelque chose,
oui,
Dejan Glavaz?
Tout à fait, parce qu'on a parlé de la question de l'entraînement et la question de l'usage. En fait, si on veut utiliser un peu une image qui pourrait parler, c'est comme créer en fait un réseau de voies fluviales. En fait, vous allez dans un premier temps donc creuser les canaux, mettre en place les écluses, les ports, etc. Donc ça va vous demander énormément d'énergie, de matière à construire l'infrastructure. Donc ça, ça correspond à peu près à l'entraînement d'une IA.
Donc ça, c'est les 109 milliards prévus pour les nouveaux data centers, on va dire, c'est ça?
Et par ailleurs, vous avez, une fois que vos canaux sont en place et que vos voies fluviales ont été mises en place, vous allez faire passer les bateaux. Et donc, c'est l'usage. Donc, vous allez utiliser les bateaux sur ces voies fluviales. Et donc, en fait, la question de l'entraînement et de l'usage, elle va dépendre de l'usage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus vous utilisez vos voies fluviales, et plus l'énergie consommée va à de chance de dépasser l'énergie consommée pour produire le réseau. Et donc, dans le cas de ChatGPT, on sait aujourd'hui, il y a plusieurs travaux qui sont penchés sur la question, on sait déjà qu'un an d'usage de ChatGPT correspond à 25 fois son entraînement. C'est-à-dire que utiliser ChatGPT, l'usage de ChatGPT a déjà depuis quelques temps, depuis bien longtemps, dépassé l'énergie nécessaire à la création du modèle. Donc c'est la question de l'usage, elle est vraiment fondamentale de ce point de vue-là, c'est que tout dépendant de l'usage en termes de quantité et de fin, en termes d'usage, on s'en est parlé tout à l'heure, si vous utilisez l'IA pour produire davantage de voitures ou, comment dire, préserver la biodiversité, l'impact environnemental final n'est pas le même.
Alors oui, Juliette Fropier, vous vouliez ajouter quelque chose
aussi,
peut-être?
Aussi, un petit quelque chose. Sur la croissance exponentielle dont on parlait, je voudrais porter ça en perspective aussi avec les autres secteurs. Parce que finalement, le secteur du numérique, c'est le seul qui augmente effectivement exponentiellement. Sur les secteurs du transport, de l'agriculture, de l'industrie, on est soit sur un plateau, soit sur une décroissance, peu à peu. Aujourd'hui, sur le secteur du numérique, on est sur une croissance effectivement exponentielle, avec énormément d'incertitudes, dues à l'explosion des usages notamment.
Il est important de mentionner que d'autres secteurs sont sur une courbe décroissante, puisque à horizon 2030, nous sommes quand même censés arriver à zéro émission de gaz à effet de serre, en France notamment, et je pense qu'on parlera plus de 2035. Donc il y a quand même ces enjeux-là qu'il faut garder au cœur de notre discussion. Alors nous avons parlé des besoins en énergie, donc des émissions de CO2, mais il y a aussi l'eau, hein, on l'a évoqué grâce à vous, Deyane Glavas, mais je vous propose, avant de partir sur ce terrain-là, et aussi celui des métaux rares, d'écouter ce reportage diffusé sur France 2 le 7 février 2025.
Ils sont au cœur de nos connexions à Internet, là où sont stockées toutes les données que nous utilisons pour lire des vidéos ou consulter des sites web. Les data centers, ces immenses bâtiments, sont un enjeu stratégique. Marseille en compte 5, et un sixième doit voir le jour. 23 000 mètres carrés sur cette friche des quartiers nord. Un projet qui ne fait pas consensus chez les riverains.
Ce qui ne nous enthousiasme pas, c'est que tous les projets qui se font dans notre zone soient des projets liés à l'activité économique, mais qui en même temps génèrent des pollutions.
Car les data centers sont très énergivores et demandent beaucoup de ressources pour fonctionner. C'est ce que dénonce cet adjoint à la mairie.
Pour faire baisser la température des serveurs, il faut refroidir ces centres de données, ces grandes fermes de données. Et donc, pour ce faire, ça utilise beaucoup d'eau.
Le choix de Marseille n'est pas anodin pour implanter ces centres de données. Avec 18 câbles sous-marins de fibre optique, la cité phocéenne relie la France au monde entier. Le pays compte environ 300 data centers, 28 000 emplois directs. Si la France attire autant, c'est parce que sa production électrique est un atout.
Elle est donc produite par des réacteurs nucléaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émission de carbone, elle est décarbonée. Après, il y a le problème du retraitement des déchets nucléaires. Et grâce à cette abondance d'électricité, elle est plutôt moins chère que dans d'autres pays.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Je me tourne vers vous, Marianne Thorpe-Debitcoeur, en premier, puisque ce cas de conflit d'usage, hein, et de Marseille, vous en parlez aussi dans le rapport du CESE, on est typiquement sur ce problème-là quand même. C'est l'eau, l'or bleu, parce qu'on sait que à l'échelle de la planète, on est déjà dans des guerres de l'eau, et on sait aussi combien, face à au réchauffement climatique et aux épisodes plus fréquents de canicule, on a besoin aussi de cette ressource en eau, et ne serait-ce que pour les usages vitaux, hein, au quotidien aussi.
Oui, tout à fait. En fait, les conflits d'usage, on a pu le documenter dans le rapport du CESE. Ça concerne l'eau, ça concerne l'électricité et les conséquences, elles sont très concrètes. Hein. Par exemple, dans la ville de Marseille, on a pu auditionner des personnes qui étaient directement concernées. La mairie a notamment dû choisir entre électrifier un réseau de bus ou implanter des data centers. Et donc, c'est vrai que, du coup, se pose la question de la planification de la politique de la ville, parce qu'on ne peut pas implanter un data center n'importe où. En fait, il faut de l'électricité, des réseaux, de la connexion, il faut de l'eau, il faut pouvoir avoir des personnes qui travaillent avec les compétences. Et donc, on met souvent des data centers en région urbaine ou périurbaine, et connectés au reste du tissu économique. Et donc, de fait, les conflits, ils sont immédiats, et quand on a, en fait, on va énormément besoin de planification de la politique publique de ce point de vue-là.
Oui. Alors, on peut imaginer que si la France va faire le développement d'autres data centers, c'est parce que c'est un pays qui est un bon candidat à l'échelle européenne, au moins pour peser aussi face aux concurrents américains ou chinois. Yann Glavas.
Alors oui, tout à fait. C'est un bon concurrent. Alors, pourquoi il est intéressant d'installer un data center en France? La première raison, évidemment, alors dans les coûts des data centers, vous avez en première ligne la question de l'énergie et donc l'électricité, pour être plus précis, la consommation d'électricité est le premier poste de coût d'un data center, d'un centre de données, pardon. Et donc l'énergie, l'électricité en l'occurrence en France est à un niveau intéressant. Alors c'est pas le plus intéressant en Europe, mais à un niveau intéressant. Par ailleurs, on a également, alors donc ça c'est une première raison, ça a été cité, une énergie électrique qui est relativement décarbonée. Alors quand j'ai entendu tout à l'heure que ça n'émet pas de CO2, le nucléaire émet du CO2, mais c'est résiduel par rapport à, évidemment, les énergies fossiles.
Oui, on imagine.
Et par ailleurs, donc il y a cette question, effectivement,
Il y a le développement du renouvelable aussi en cours.
Tout à fait. On développe le renouvelable. Alors, on a aussi un réseau électrique qui est solide. Et on a une infrastructure, par ailleurs, qui est assez bien interconnectée, que ce soit du point de vue des données et de l'électricité, qui en fait permettent aussi de sécuriser les centres de données. Donc la France est un excellent candidat. Il faut savoir que le candidat intéressant en Europe avant la France était l'Irlande, qui aujourd'hui arrive, il faut le dire, à un point de saturation, un point tel où l'opérateur réseau de l'agglomération de Dublin a dû mettre en place un moratoire sur la construction des centres de données. Parce qu'évidemment, des constructions massives entraînent une demande massive et posent des problèmes du point de vue du réseau électrique. Pas que de la production, mais du réseau.
Ce qui se joue là, on peut imaginer, c'est quand même s'assurer une certaine indépendance de l'Europe, en tout cas moins dépendre des pays cités, hein, Amérique, oui. Et enfin États-Unis et Chine, quand même.
Alors évidemment, notamment. Évidemment avoir la structure, l'infrastructure en France de l'IA et des centres de données, c'est effectivement une bonne manière de gagner en indépendance. Alors là, on est tout à fait tout de même dépendant, c'est sur deux grands points. C'est
les métaux rares, on va en parler.
Alors les métaux rares,
c'est sûr.
La question du cloud, c'est-à-dire des fournisseurs de solutions, et évidemment la question des fournisseurs de modèles. On a alors Mistral, effectivement en France, mais tout de même il y a une dépendance forte. Hein, ceux qui ont les parts de marché les plus importantes au monde et en Europe restent encore les opérateurs américains.
Alors, Marianne Thor de Bitcoeur et ensuite Juliette Fropier.
Oui, très rapidement, juste pour dire que effectivement, cet exemple, en fait, la question de l'IA et de l'empreinte environnementale de l'IA, en fait, ça peut pas être pris par un prisme manichéen. En fait, la géopolitique arrive très très vite. Avoir des data centers en France, ça paraît important pour la souveraineté des données. C'est-à-dire qu'on a un vrai sujet aussi de pouvoir contrôler qui accède à nos données. Donc c'est vrai que on est content d'avoir l'infrastructure à côté de chez nous, surtout si potentiellement du jour au lendemain, on nous coupe l'accès dans une folie trumpienne. Et autre point important, c'est que on est quand même il est préférable que les data centers soient implantés là où nous avons une énergie décarbonée, semi-décarbonée, selon le débat, plutôt que, par exemple, aux États-Unis où on réouvre des centrales à charbon.
Juliette Fropier.
Oui, je voulais dire que sur les data centers, le président l'a dit, on est exportateur d'énergie, mais on est importateur de capacités de stockage et de calcul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de calculs qui sont faits en fait pour des utilisateurs français, quand on utilise des IA génératives, mais aussi quand on surfe sur les réseaux sociaux, qui sont faits en dehors de France, parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui la capacité en France, avec nos data centers, d'héberger tout le trafic français. Donc en fait, faire venir des data centers en France, c'est s'assurer que nos usages ont lieu sur le sol français. Faire venir des data centers en France, c'est aussi s'assurer qu'on a plus de prise sur ces data centers. En France et en Europe, je pense qu'on a de la chance d'avoir des régulations en fait autour de ces data centers qui nous permettent d'avoir des chiffres, qui nous permettent d'avoir aussi des limitations sur leur impact environnemental. Au niveau français, je citerai la loi réduire l'empreinte environnementale du numérique qui a été adoptée en 2021 et qui permet à l'ARCEP, qui est notre régulateur du numérique, d'obtenir des chiffres de la part des opérateurs des data centers et de les agréger au niveau français pour savoir où est-ce qu'on en est finalement en termes de consommation énergétique, mais aussi d'impact environnemental de manière plus large. Et puis maintenant, au niveau européen, la directive efficacité énergétique commence à s'appliquer, et notamment sur les data centers. Et ça nous permettra aussi, au niveau européen, de l'Union européenne, d'avoir des chiffres sur nos data centers européens.
Alors, vous parliez des usages. Il faudra peut-être aussi questionner les usages. On en parlera quand on parlera des solutions et des leviers, puisqu'on imagine aussi l'effet rebond, l'effet d'entraînement, et qu'on n'aura peut-être pas besoin d'utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi. On en parlera dans un instant. Je voudrais quand même juste, avant d'entendre le choix musical, je voudrais vraiment qu'on puisse aussi parler un peu de cette question des métaux rares, parce qu'on parlait de géopolitique, mais là, effectivement, les métaux rares, on n'en dispose pas. Donc, nous sommes là aussi dans une dépendance. Et où en est-on de la circularité, du recyclage rêvé par tous pour éviter justement d'être dans cette prédation, cette pression sur la planète qui, faut-il le rappeler, ne peut pas répondre à nos besoins et à nos demandes. Yann Glavas.
Alors, c'est un point alors qui est souvent oublié quand on parle de l'impact environnemental, alors du numérique en général et de l'IA en particulier. Il y a eu une étude il y a quelque temps diligentée par Carbone 4 sur notamment la question des métaux rares dans le numérique. Et ce que dit l'étude est assez intéressant, c'est que la production de métaux entre aujourd'hui et 2050 doit être supérieure à la production de métaux depuis l'Antiquité à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit produire une quantité de métaux pour répondre à la demande qui est phénoménale. Comme vous l'avez dit, parmi les métaux importants, on a ceux qui sont extraits des terres rares, qui sont donc utilisés notamment pour produire les semi-conducteurs qu'on va mettre dans les centres de données. Et donc, ces éléments-là, alors pour prendre le cas des terres rares, les réserves de terres rares ne se situent pas, comme vous l'avez dit, en Union européenne. Première réserve au monde se situe en Chine. On a des réserves au Vietnam, au Brésil et en Russie. Donc, quand vous avez établi la liste, alors je sais que les États-Unis aussi investissent justement pour réduire cette dépendance aux terres rares. Mais la question centrale de la dépendance aux matériaux est assez importante.
Et en sachant qu'avec ces quatre pays, on est à peu près à 80% de la quantité des terres rares. Donc,
Oui, donc là,
il en reste peu pour les autres.
Exactement. Et donc là, alors une fois qu'on a dit ça, on a parlé de la question de l'accès aux métaux, et puis vous avez également parlé de la question du recyclage. Alors c'est une problématique supplémentaire, c'est-à-dire que les déchets numériques, alors très compliqué de distinguer ceux qui sont utilisés pour l'IA et ceux qui ne le sont pas, mais de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'à peu près au niveau global, 20% des déchets numériques sont recyclés. Au niveau européen, on est sur des chiffres plus élevés, plutôt vers 40% de recyclage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les déchets numériques constituent un polluant très important. C'est un des principaux polluants mondiaux. Alors, on peut prendre deux situations situation, notamment une déchetterie numérique au Ghana, qui a des impacts terribles en termes de santé publique, notamment par le fait que dans ces métaux, dans ces déchets numériques, vous allez retrouver du plomb, du mercure et tout un ensemble de composants qui sont nocifs pour la santé humaine. Quelque part, ce que l'on fait, c'est que en ne recyclant pas ces matériaux-là, on exporte finalement
On déplace le problème et on va polluer les autres.
Tout à fait.
Concrètement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Juliette Fropier.
Oui, on a parlé jusqu'à présent des impacts de manière assez distincte. On a parlé d'énergie, puis d'eau et maintenant de ressources. Et je voudrais juste te dire que les trois sont... Enfin, tous les impacts finalement sont très interconnectés et il y a des risques de transfert d'impact. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'efficacité énergétique, on parle de consommation énergétique liée à l'IA. Et en fait, pour diminuer cette consommation d'énergie, on produit de plus en plus de serveurs, donc de GPU, qui aujourd'hui permettent de faire tourner l'IA, qui ont une plus grande efficacité énergétique, c'est vrai. Mais du coup, on a un renouvellement quasiment effréné de ces ressources numériques. Et du coup, en cherchant à diminuer cette consommation énergétique, on augmente notre consommation de ressources. Et pour l'eau, c'est pareil finalement, parce que parfois, en voulant réduire la consommation d'eau et donc en adoptant de nouvelles manières de refroidir les data centers, bah, du coup, on consomme plus d'énergie ou l'inverse selon les techniques qu'on utilise. Et finalement, tous les impacts sont liés.
Donc il est temps de se poser et de chercher les bonnes solutions. Nous allons en parler dans un instant après avoir écouté le choix musical de Marianne Thor de Bitcoeur. C'est le vôtre parce que c'est un choix musical précis pour une occasion spéciale.
Tout à fait, c'est l'occasion de souhaiter un très bon anniversaire à ma maman et à mon frère et ma sœur.
Et vous avez choisi de faire écouter...
Bruce Springsteen, Hungry Heart.
Hungry Heart et Marianne Thor de Bitcoeur. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que...
Ma maman est une auditrice assidue de France Culture,
voilà.
Évidemment.
Merci à elle, merci à vous. Et c'est la suite de Cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture, en direct. Et l'intelligence artificielle est au cœur de nos discussions. L'IA est-elle une solution ou un problème pour la planète? Nous en parlons avec nos trois invités. Dejan Glavas, directeur de l'Institut IA pour le développement durable, professeur associé en finance à l'ESCA, expert en finance climat et en responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Juliette Fropier, chef de projet IA Ecolab au ministère, au commissariat général au développement durable et pour les ministères territoire, écologie, logement. Et Marianne Thor de Bitcoeur, je rappelle que vous êtes rapporteur d'un avis récent du CESE, il a paru
le 14 janvier.
Mi-janvier. Intitulé pour une IA au service de l'intérêt général. Et vous êtes directrice des affaires publiques de France Digital et conseillère au Conseil économique, social et environnemental. Alors, une intelligence artificielle qui peut rendre des services sur le plan du climat et de l'environnement.
Ils n'ont l'air de rien comme ça, mais ces petits capteurs sont capables de protéger toute une forêt. Leur particularité, ils identifient les départs de feu au sol. les capteurs alimentés par l'énergie solaire agissent comme des détecteurs de fumée.
Les pompiers reçoivent alors une alerte sur leur téléphone et aussi par mail, avec une carte qui leur indique les coordonnées géographiques exactes du capteur qui a détecté le feu.
Une centaine de capteurs ont été installés dans cette forêt connectée au net. Ils sont programmés pour reconnaître les odeurs de gaz dégagées par un départ de feu dans le laboratoire de l'entreprise.
Pour procéder au test avec ces échantillons, nous en prenons une petite quantité qui est déposée dans une plaque chauffante. Celle-ci est chauffée à 400 degrés et la fumée qui s'en dégage à travers ce tuyau est reconnue par le capteur.
Ce capteur est équipé d'un détecteur de gaz qui reconnaît l'hydrogène, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures volatiles et qui est capable de l'interpréter grâce à l'intelligence artificielle. Cela signifie donc que ce capteur est capable de sentir, c'est une sorte de nez électronique.
Vous avez pu le constater vous-même, cela permet de repérer les feux de forêt très tôt. Nous ne sommes pas capables de les détecter aussi rapidement avec les caméras qui sont installées partout dans le Brandebourg. En la matière, nous avons bien fait les choses, mais les caméras ne voient pas les feux aussi vite. Or, plus vite nous détectons un feu grâce à ce système, plus vite nous sommes en mesure de lancer les premières opérations d'extinction.
C'était un reportage de Anne Maillet diffusé sur Arte TV en 2023 et intitulé « Des forêts connectées contre les feux ». On parlait des usages, on est là typiquement dans de bons usages en tout cas de cette IA. Parlons de l'IA pour le meilleur peut-être. Comment vous voyez les choses? Que faut-il faire pour arriver à ces usages-là et qui deviennent des solutions, des leviers pour l'écologie, pour l'environnement, pour la planète, pour la lutte contre le réchauffement climatique et la crise de la biodiversité aussi. Qui veut commencer? Oula, toutes les mains se lèvent. Marianne Tordebitker, et puis ensuite on fait le tour.
Je pense que l'enjeu, c'est d'avoir une adoption massive de ces usages positifs. Moi, un exemple que j'aime bien et qui en fait concerne aussi bien les citoyens, les citoyennes, les entreprises, les politiques publiques, c'est le sujet de la rénovation énergétique des logements. Pour vous donner un exemple concret, il y a des projets notamment développés par une start-up Namer qui développe des jumeaux numériques pour modéliser le bâtiment. On a modélisé par exemple la ville de Saclay. Et là, l'idée derrière ça, c'est d'avoir un double numérique. À quoi ça sert d'avoir un double numérique? Ça sert en fait à identifier dans un logement, dans un bâtiment, l'exposition au vent, l'altitude, l'exposition au soleil, etc. Et très concrètement, vous allez pouvoir identifier en croisant ces données, et c'est là où l'IA arrive, c'est en croisant ces données, vous allez pouvoir identifier là où vous allez pouvoir, où ça va valoir le coup de dépenser de l'argent pour avoir un double vitrage, ou là où au contraire, à cet endroit-là, ça vaut pas le coup parce que l'exposition est bonne. Et très concrètement, c'est des économies importantes pour le portefeuille des Français, des Françaises ou des personnes qui détiennent tous ces logements. On a même identifié que ça pourrait aller jusqu'à 40% de chauffage en moins. D'accord. Donc là-dessus, là on voit que ça fait du bien à tout le monde.
Juliette Fropier.
Oui, déjà l'IA est déjà utilisée par la puissance publique pour les politiques publiques de transition écologique, à la fois au niveau national et au niveau local. Commençant par le niveau local, elle est beaucoup utilisée finalement pour mieux connaître un territoire, pour mieux connaître les dynamiques du territoire et aussi pour mieux prédire du coup ces dynamiques dans le futur et ainsi du coup adapter les politiques publiques, qu'elles soient d'aménagement, de transport, de construction, etc. On peut citer plusieurs exemples, mais par exemple l'utilisation de l'IA pour détecter des fuites dans les réseaux d'eau, l'utilisation de l'IA aussi pour connaître la quantité et la qualité de l'eau sur un bassin versant et faire des prédictions aussi dans le futur qui permettront de préparer des restrictions en cas de sécheresse. Bref, tout un éventail de choses vraiment relatifs à l'optimisation, la bonne connaissance et la prédiction dans le futur. Au niveau national, c'est utilisé aussi sur nos politiques plus globales de transition écologique, notamment pour le suivi de l'artificialisation des sols. Enjeu très important aujourd'hui, puisqu'on veut une zéro artificialisation nette. Et donc l'IGN, qui est l'Institut de l'information géographique et forestière, utilise l'IA pour analyser les images satellites et aériennes et identifier du coup automatiquement, donc beaucoup plus rapidement que si c'était fait par un humain, qu'est-ce qui aujourd'hui est une aire naturelle, qui est-ce qui aujourd'hui est une aire artificialisée, et nous permet de suivre ça année après année. Et donc, année après année, on est capable de savoir, grâce à ça, où est-ce qu'on en est sur cette politique publique donc, de zéro artificialisation nette. Et un autre exemple, aussi puissance publique, c'est Météo France. Météo France qui, aujourd'hui, commence à utiliser l'IA aussi pour améliorer ses prédictions, à la fois sur le court terme, mais aussi sur le long terme avec le réchauffement climatique. Ça, c'est plutôt des modèles d'IA, je dirais, traditionnels. Mais on voit aussi des usages de l'IA générative. On l'a vu, par exemple, pour utiliser l'IA générative pour rendre plus accessible la connaissance environnementale. Les rapports du GIEC ou de l'IPBES, donc l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité.
Oui.
C'est des très longs rapports, PDF, de milliers de pages, etc. Pas accessibles à tous. Je pense que personne n'a lu en entier ces rapports qui pourtant comprennent énormément.
Même s'il y a des résumés qui sont proposés.
Tout à fait, qui comprennent beaucoup de données intéressantes. Et parfois, on veut peut-être rentrer plus dans le détail, dans un sujet ou d'un autre de ces rapports. Et aujourd'hui, il y a des portails du coup d'IA générative qui nous permettent de poser des questions avec des niveaux de connaissances qui peuvent différer. Par exemple, un niveau expert, un niveau grand public, voire un niveau enfant, qui permet du coup d'adapter les réponses en faisant des comparaisons, etc. Et de se baser uniquement sur les rapports du GIEC et de l'IPBES. Aujourd'hui, on est en train d'adapter ça au niveau ministériel pour que toute la connaissance qui est produite par le ministère de la Transition écologique puisse aussi être extraite grâce à ces outils d'IA générative.
Alors, vous parliez des friches. Est-ce que, justement, enfin, de zéro artificialisation nette, est-ce que les nouveaux data centers seront positionné ou installé sur des friches industrielles, ou est-ce que là, le zéro artificialisation nette ne sera pas appliqué?
C'est l'objectif, en tout cas, au maximum. Après, effectivement, dans une implantation de data center, on prend en compte énormément de critères. Il y a bien sûr le raccordement énergétique. Il y a bien sûr le fait qu'on soit proche des endroits un peu clés en termes de trafic. Et il y a aussi bien sûr la collectivité qui donne son avis et qui regarde si c'est un projet pour le territoire qui fait sens. Donc finalement, c'est tout cet éventail qui est regardé. Mais bien sûr, les friches sont priorisées pour l'implantation de data center.
Alors, vous êtes au cœur de l'Écolab. Hein. Il y a des référentiels ou un référentiel en partenariat avec l'AFNOR. On peut peut-être en parler, puisque vous parliez aussi de tout ce travail fait avec les pouvoirs publics. Est-ce que, justement, ça fait partie du travail que vous menez au sein des ministères? C'est de voir comment peut-être accompagner les collectivités et mieux mettre en place des normes ou des cadres pour l'usage et les usages de l'IA. L'AFNOR, il faut rappeler hein, que c'est l'organisme qui édite les normes françaises.
Oui, tout à fait. En fait, sur l'IA et la transition écologique, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on manque beaucoup de données, je l'ai déjà dit, mais d'une bonne compréhension du sujet, finalement. Donc, en fait, ce qu'on a fait au sein du ministère, c'est qu'on a d'abord privilégié, du coup, l'expérimentation, comme je l'ai dit. On a financé 12 démonstrateurs territoriaux d'IA pour la transition écologique, des cas d'usage ultra concrets. Mais quand on a, du coup, choisi ces cas d'usage, on a demandé à chaque fois, est-ce qu'il y a une estimation de l'impact environnemental qu'allait causer cette du coup ce démonstrateur, pour vérifier quand on était dans une balance coût-bénéfice qui soit absolument positive, puisqu'on veut que l'IA aide à réduire plus qu'elle n'aggrave le problème. Donc c'est pour ça que c'était important d'avoir bien ces choses en tête. Et du coup, en ayant ces projets de démonstrateurs territoriaux pour la transition écologique, ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est qu'on manquait de méthodologie, de bonne méthodologie de calcul qui soit bien partagée par tous pour connaître l'impact environnemental de l'IA. C'est pour ça qu'on a publié donc en juin 2024 le référentiel pour l'IA frugale, pour trois choses. La première chose, donc, c'est dire ce que c'est l'IA frugale, puisque comme l'IA, on a besoin de définition. Donc, dire ce que c'est l'IA frugale, on est arrivé avec une centaine de participants, à la fois des administrations, de la recherche, des entreprises, des associations, à arriver à une définition qui porte trois éléments. La première, c'est une IA frugale, c'est une IA qui questionne le besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de recourir à l'IA dans le cas où on va l'utiliser? C'est une IA aussi qui met en place des bonnes pratiques. On va y revenir, mais il y a effectivement des bonnes pratiques qui peuvent être assez facilement mises en place pour réduire l'impact environnemental environnementale de l'IA. Et c'est finalement une IA dont l'usage respecte les limites planétaires. On aurait du mal à dire qu'une IA qui est mise au service de davantage d'extraction de matières premières est une IA qui respecte les limites planétaires. Donc c'est ces trois choses qu'on a pris en compte derrière l'IA frugale. Et après, on a donné du coup une méthodologie de calcul d'impact environnemental. C'est une analyse en cycle de vie qui nous permet du coup, sur toute la chaîne de valeur de l'IA, de regarder les différents impacts et de donner du coup des lignes directrices aux entreprises et à toute organisation qui souhaiterait mesurer. Et enfin, il y a les bonnes pratiques et il y a la communication. Comment on communique sur... comment on fait du reporting, sur l'impact environnemental de l'IA.
Après, la question, c'est quelles sont les premières réactions? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a du côté des entrepreneurs ou des pouvoirs publics, des collectivités, etc., une réception positive à l'IA frugale ou le sentiment d'être, là encore, et attention, c'est entre guillemets, hein, c'est pas mon expression, mais dans une écologie punitive?
Alors oui, de notre côté, on voit une très bonne réaction et je dirais de la part de toutes les bonnes parties prenantes, finalement, parce que en fait, tout le monde se pose des questions aujourd'hui et a besoin d'être rassuré, je pense, sur, comme je disais, ce coût-bénéfice qui soit positif. Les collectivités, l'État, ont un devoir d'exemplarité, bien entendu, et donc quand ils ont recours à l'IA, ont envie d'avoir des chiffres sur cet impact environnemental. Et derrière, les entreprises, pour elles, ça fait beaucoup sens à la fois parce que ils ont déjà des acheteurs qui se posent des questions sur ces sujets-là, mais à la fois parce que mettre en place des systèmes d'IA frugal, ça fait sens, bien sûr, sur le plan économique, parce que ça coûte moins cher à entraîner, ça coûte également moins cher à maintenir. Donc finalement, elles y trouvent leur compte et on est quand même dans une démarche, effectivement, où on sait tout ce qu'on doit avancer sur le plan de la transition écologique et les entreprises sont en première ligne pour faire cette transition. Donc je dirais un très bon accueil et on continue à travailler avec elles puisqu'aujourd'hui cette norme qu'on a fait au niveau français, donc avec l'AFNOR, on la porte au niveau européen dans le cadre notamment de l'IA Act et les entreprises nous suivent donc pour mettre en place cette norme européenne.
Oui, parce qu'on peut se poser la question effectivement dans un pays, dans une Europe où il y a cette montée du climato-scepticisme par exemple et notamment fortement en France. Et donc, même si on peut se dire que tout le monde sait qu'il faut faire des efforts, tout le monde n'est pas prêt à les faire, visiblement, puisqu'il y a quand même ce climato-scepticisme inquiétant. Marianne Tordebitker, sur ces questions-là, et la réception aussi d'une IA frugale, oui, mais est-ce que les contraintes sont plus des barrières que des leviers positifs?
En fait, je pense que ce qu'il faut voir, c'est la disponibilité des ressources technologiques pour les entreprises, pour l'État, en fait, pour tous les consommateurs de cette IA et tous ceux qui vont créer finalement les usages. Et donc là où, par exemple, moi, j'aimerais nous projeter dans un futur qui est en fait un moment immédiat, c'est celui du temps du quantique. Alors, on va du coup plus parler d'IA, mais on va parler de quantique. Et en fait, on va parler d'IA, vous allez voir. Le quantique, c'est une manière de faire du calcul de manière très, très puissante. Et en gros, de faire beaucoup plus avec beaucoup moins de ressources. Et par exemple, moi, quand j'entends là les projets d'implantation de nouveaux data centers, les investissements de 109 milliards pour faire des data centers, moi, ce que j'appelle mon appel aux politiques publiques, c'est penser déjà au temps d'après. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA frugale, elle sera frugale et elle sera adoptée par les entreprises ou par tous les utilisateurs si l'IA qui leur est proposée l'est. Et c'est-à-dire qu'on peut pas faire reposer uniquement à des utilisateurs, à des TPE, à des PME, le fait de devenir frugaux, il faut que l'infrastructure soit frugale. Oui, oui. Et de ce point de vue-là, le quantique, on a des entreprises, et c'est là où il y a une très bonne nouvelle, ce que je disais tout à l'heure, la lumière au bout du tunnel, mais on a des entreprises françaises qui développent de l'informatique quantique, qui peuvent être implantées directement dans les data centers. Je pense par exemple à des entreprises comme Candela, comme Pascal, etc., qui vont permettre de réduire l'empreinte environnementale, la quantité de ressources nécessaires pour faire des calculs très compliqués. Donc sans être technosolutionniste, la réalité c'est qu'en fait on a quand même déjà des solutions qui nous permettent en France et en Europe d'être super bons et de réduire l'empreinte environnementale.
Donc soutenons-les, c'est ce que vous
dites. Exactement, hein. Et soutenons-les et faisons une adoption aussi publique de ces technologies.
Diane Glavas.
Oui, alors sur la question des entreprises, parce qu'on a effectivement beaucoup parlé des pouvoirs publics, nous on a l'année dernière fait un baromètre avec Laurent Hinard de Forvis Mazars. On a interrogé 400 entreprises en France et en Angleterre sur leurs usages de l'IA. Et notamment, une des questions qu'on a posées, c'est est-ce que vous utilisez l'IA pour atteindre des objectifs de développement durable ? Et ce que l'on observe, alors les retours qu'on a eus, les données, nous disent qu'une grande majorité d'entreprises cherchent à utiliser l'IA de manière positive. Et que par ailleurs, alors c'est un autre résultat qui était assez intéressant, c'est que les entreprises, de manière générale, en grande majorité, nous disent qu'elles sont très positives en termes d'impact, en termes de durabilité de l'IA. Ce qui est assez intéressant parce que quand vous lisez la littérature scientifique sur le sujet, la littérature scientifique sur le sujet de l'IA est plutôt négative sur son impact environnemental, pas que du point de vue du CO2, des émissions. Donc c'est d'abord un élément qui est assez intéressant, c'est que les entreprises se sont appropriées le sujet avant l'arrivée des normes, finalement, en se disant, bon, on va essayer d'utiliser l'IA pour atteindre des objectifs positifs. Alors, il y a un autre élément dont il faut, je pense, parler, c'est que on a parlé tout à l'heure des émissions de CO2 qui sont liées à l'entraînement des IA. Et il y a un élément qui est assez important, à mon sens, c'est la question de l'open source. C'est-à-dire que une fois que vous avez mis votre modèle donc en open source, donc à disponibilité des usagers, vous économisez aux usagers le temps de l'entraînement. C'est-à-dire ils n'ont plus à entraîner le modèle. Et donc, c'est tout de même une économie assez importante. Donc, quand on parle d'IA frugale, je pense qu'on ne peut parler que d'IA open source. Ça n'est pas possible de le faire autrement. Une IA fermée ne peut pas, à mon sens, être une IA frugale. Après, la deuxième question qui est souvent liée au questionnement sur l'IA frugale, c'est l'usage de l'IA en elle-même. C'est est-ce qu'il est utile d'utiliser la technologie la plus avancée pour accomplir des tâches qui n'en ont absolument pas besoin. Et c'est ce qu'on appelle aussi la sur-ingénierie, c'est-à-dire vous allez utiliser des modèles extrêmement complexes, notamment les modèles d'IA générative, pour accomplir des tâches que des modèles d'apprentissage machine faisaient très bien.
Oui.
Donc, quand on parle vraiment de ces questions, à mon sens, avant, effectivement, les normes sont fondamentales pour pouvoir mesurer notamment l'impact des IA.
Mais les usages.
Et exactement.
C'est quand même ça, hein. Oui. Marianne Tordebitker.
Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en France, on a quand même beaucoup d'applications dans l'IA. Avec France Digital, on a identifié à peu près 750. Mais c'est surtout des IA spécialisées. Et une IA spécialisée, c'est quand même une IA qui va utiliser moins de données, moins de capacités de calcul, parce que elle va produire un résultat sur son secteur d'activité. Et donc, il n'y a pas besoin de réentraîner d'activer l'équivalent d'une Porsche pour aller chercher son pain. En fait, on suit d'actionner la Twingo ou le vélo. Et ça fonctionne aussi très, très bien. Et donc, c'est là où les IA spécialisées sont très performantes. On en a plein en France. Et donc, c'est là où on n'a pas forcément à rougir de la concurrence internationale, parce qu'on a des solutions locales.
Il y a pour le meilleur, hein. Je sais que dans le rapport, vous mentionnez aussi, par exemple, dans le monde médical, les hôpitaux. Et là, on voit bien que l'IA est essentielle. On n'est pas dans un usage inutile, loin de là. Oui, Dejan Glavas.
Pour donner un autre exemple qui est assez intéressant de ce point de vue-là, c'est que l'IA peut aussi être un bel outil pour s'adapter au changement climatique. C'est-à-dire, on peut prendre un cas d'un projet développé à l'INRIA.
Rapidement.
Sur les ouragans, les changements de catégorie d'ouragans, les modèles climatiques traditionnels sont légèrement moins performants que les modèles d'IA génératifs sur lesquels on travaille pour, en fait, prévoir le passage d'un ouragan d'une catégorie 1 à une catégorie 5. Donc, c'est un bel outil pour s'adapter, pour se préparer au changement climatique.
Usage essentiel et vital. Merci à tous les trois. Juliette Fropier, je suis sûre que vous aviez plein de choses à nous dire, mais on arrive au terme de l'émission. On peut conclure quand même qu'il faut former à l'IA et informer plus que jamais. Et surtout, y compris les usages. Merci à tous les trois. Juliette Fropier, Marianne Tordebitker et Dejan Glavas. Les informations, les liens vous concernant sont bien sûr à retrouver comme d'habitude sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et d'autres podcasts en lien avec le sujet vous attendent aussi sur le site. Belle soirée à tous.